Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, ben c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Joël Desmottes, médiateur culturel au château de Chillon, nous explique qu'un duc, le mot duc, vient du mot dux, en latin, de la fin de la Rome impériale. Au 3e siècle, ça commence déjà par des chefs de guerre. Et puis, dans une période de migration et d'invasion, ils devaient défendre, en fait, le territoire dont ils étaient chefs. Ce grade, qui était au début militaire uniquement, devient peu à peu un pouvoir civil également. C'est là qu'il devient plus important que jamais. Et on a eu des doux qui étaient étrangers, comme certains barbares, qui sont restés doux à la chute de l'Empire romain d'Occident. Pour qu'on se comprenne et en simplifier, du bas vers le haut, la hiérarchie féodale, c'est d'abord le baron, ensuite le comte qui a un pouvoir civil, le marquis qui va avoir un pouvoir civil et militaire parce qu'il va être aux frontières, donc il va devoir défendre les frontières du territoire, et puis finalement le duc qui va avoir un pouvoir militaire et civil, et tout en haut, le roi. Je me suis trompé quelque part, Joël ?
En résumé, c'est après ça. Après, on pourrait parler de vicomte, de vidame, mais après, on s'en sort plus. Et si on met les spécificités de chaque pays, on va pas s'en sortir. Bon, tout ça, c'est bien beau, c'est de la théorie. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé, finalement ?
J'allais te demander.
Alors, en fait, ici, c'est assez compliqué, parce que notre région, la Suisse romande, ça a toujours été au milieu de tout. Au début, c'était le royaume des Burgondes, les gens qui se sont installés. Mais ça, c'était au 5e, 6e siècle, ça n'a pas fait long feu. Ensuite, c'est entré dans l'orbite du royaume des Francs, qui a duré finalement jusqu'à Clovis, Charlemagne, etc. À la mort de Charlemagne, hop, on casse tout, on recommence. Il y a les trois royaumes, la Francie, la Lotharingie, ce qui donnera finalement la Francie de l'Est, ça deviendra l'Allemagne après coup. Mais bon, on n'en est pas encore là. Et avec tout ça, au milieu, la Suisse romande, qui est dans la Lotharingie, il y a tout qui se casse de nouveau la figure. Bref, après, on a le royaume des deux Bourgognes. Je vais très très vite dans le temps. Là, je viens de faire 5 siècles d'un coup.
Ouais.
Et après, ça fait intégrer dans le Saint-Empire romain germanique à partir plus ou moins du milieu du 11e siècle. Là, on est dans les années 1050 environ. Donc à cette période-là, le canton de Vaud et le Chablais, finalement, c'est un petit peu flou, c'est plein de différents petits seigneurs. Et finalement, qu'est-ce qui va prendre la place? Quelle superpuissance, on pourrait dire, va arriver? Est-ce que ce seront les Bourguignons? Eh bien non. En fait, c'est des gens qui viennent depuis de l'autre côté du lac. Ça va être le comté de Savoie.
C'est un comté à la base.
À la base, les Savoies, c'était un comté. Les comtés de Savoie qui avaient la chance d'avoir une position assez centrale entre l'Italie, la France, à une position centrale, et les portiers des Alpes, comme on les appelait. Ouais. Et petit à petit, ils ont réussi à jouer de cette position et à de prendre de plus en plus de pouvoir, jusqu'à qu'au milieu du XIIIe siècle, le petit Charlemagne, la classe, il s'appelait Pierre de base, Pierre II, c'est lui qui a beaucoup amélioré le château de Chillon, par exemple, il a conquis le canton de Vaud. Donc tout ceci, ils ont vraiment fait quelque chose d'assez grand. Et le Chablais aussi, exemple, évidemment, le Chablais a fait, même d'abord le Chablais, en vrai, et après le canton de Vaud. Donc du coup, ça c'était vraiment les comtes de Savoie, qui n'étaient pas des sujets du roi de France, mais qui faisaient partie du Saint-Empire romain germanique. Donc c'était quelque chose qui venait... Ils étaient sujets du Saint-Empire romain germanique, mais ils devaient un petit peu jouer entre les différentes puissances, notamment leurs voisins, les Bourguignons, qui étaient extrêmement puissants. Et finalement, ils ont réussi à bien jouer de diplomatie, ainsi que finalement de faits militaires. Amédée VI, par exemple, on l'appelle le Comte Vert, était très fort et a réussi même...
Ah, c'est de là que ça vient, le Comte Vert?
Absolument, le Comte Vert.
Parce qu'il y a une place à monter qui s'appelle la place du Comte Vert.
Ah bah oui, c'était un des comtes de Savoie, un des comtes très importants. Il a même reçu d'être vicaire perpétuel du Saint-Empire. C'est la classe. On sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Enfin si, on pourrait, mais j'en aurais pour une deuxième mission. C'était très important. Et ils ont vraiment pris une place centrale jusqu'à qu'un des comtes de Savoie, qu'on appelait Amédée, aussi beaucoup c'était des Amédées, il s'appelait VIII, le Pacifique, en 1416, 1513, il s'est fait nommer duc par Sigismond, l'empereur du Saint-Empire romain germanique de l'époque. Donc, il est vraiment devenu duc de Savoie. Et c'est là que venaient les ducs de Savoie, qui avaient un très très grand territoire qui allait du canton de Vaud, du pays de Vaud, jusqu'à Nice. Le comté de Nice était sous la domination du duché de Savoie.
Jusqu'en bas à Nice, de la Méditerranée jusqu'ici en haut.
Exactement, c'était le duché de Savoie au 15e siècle. Il faut imaginer que c'était vraiment une des puissances majeures. En fait, il faut imaginer que certains duchés étaient même aussi puissants que les rois. Donc par exemple, les ducs de Bourgogne, les voisins et aussi un petit peu les rivaux des Savoies étaient très importants. On pourrait citer par exemple le duc Jean sans peur, qui a même fait une fois assassiner, c'était une notoriété publique, le frère du roi pendant la guerre de Cent Ans pour prendre plus de puissance.
Et il l'a fait comme ça, sans trop s'en cacher, genre non mais c'est bon, genre je suis cheap leader autour de cette table, c'est moi qui bop, je suis même pas peur, même pas mal.
Ouais, après c'est lui, même pas mal, il s'est fait après assassiner par la famille, hein, donc Ça c'est la grande guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons. En fait, vraiment, imaginez que ces ducs, c'était aussi des... On pouvait avoir des ducs tout aussi puissants que des rois. Et... On veut dire, on est dans le Chablais, hein.
Oui.
Moi, j'aime bien dire des choses assez rigolotes sur le Chablais.
Vas-y, on voit.
Alors, il faut imaginer que le Chablais a été un duché.
Attends, quoi, duché du Chablais?
Le duché du Chablais. En fait, c'est la famille de Savoie, mais ça, c'est plutôt au 18e siècle, hein, qui ont créé des petits duchés pour les branches cadettes. On a le duché du Genevois, par exemple. Il y avait le duché du Chablais. Le duché du Chablais, il n'a pas fait très très long, hein.
C'est au 18e siècle.
Exactement, de 1763 à 1854. Bon, il n'y a eu que deux ducs du Chablais, mais on a eu des ducs du Chablais quand même.
Et ça,
c'est assez chouette. Et si on veut encore un duché qui n'est pas très très loin et qui est toujours d'actualité, c'est le duché d'Aoste. En fait, le duché d'Aoste a été remis en place il n'y a pas très très longtemps, même à cette époque. Enfin, même actuellement, on a un duché du Savoie et le duc actuel du Savoie, le duc d'Aoste, en fait, il est né en 2011. C'est Amédée IV des Savoie-Aoste. Oh, je suis assez jaloux quand même. T'as 15 ans, t'es duc d'Aoste.
Non, mais attends. Donc, le titre est toujours parce que bon, l'Italie est devenue une république. Donc, mais les titres sont quand même. Bon, c'est quoi? C'est la famille qui se les passe entre eux? Comment ça se passe maintenant?
En fait, il faut imaginer que ces titres, ce sont des titres héréditaires, donc qui se passent de père en fils. Et généralement, il y a eu quelques lois qui ont été mises en place que ça ne passe pas par les filles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a plus de duc de Bourgogne, parce que Charles le Téméraire, il n'avait qu'une fille, Marie de Bourgogne, hein, fatalement. Et du coup, le titre duc de Bourgogne s'est perdu. Elle s'est mariée à Maximilien de Habsbourg et du coup, oui. Le titre, c'était la...
Et sauf erreur, avec le duché de Bourgogne, il y a aussi l'histoire de la confrérie de la Toison d'Or, enfin avec l'histoire de la Toison d'Or, et puis le chef de la Toison d'Or est également le duc de Bourgogne et c'est actuellement, sauf erreur, le roi d'Espagne Philippe.
Alors,
ou Juan Carlos, s'il n'a pas abdiqué de ce côté-là.
Oh, de toute façon, toutes les familles royales, elles se passent souvent elles ont tendance à se marier entre eux. D'ailleurs, Marie de Bourgogne, je crois que c'est son petit-fils, c'était Charles Quint, enfin le fameux grand empereur qui parlait à tout le monde et qui dominait la moitié de l'Europe. Donc il faut imaginer qu'en fait, même si avec le temps, sous l'ancien régime, etc., les ducs ont perdu beaucoup, beaucoup de puissance réelle, les titres existaient toujours. C'était, on va dire, une dignité. Je suis duc de... Mais je sais pas, moi, duc de... c'était les comtes de Blenay, par exemple. Ils existaient toujours. Ils n'ont pas forcément beaucoup de pouvoir effectif. Par contre, c'était une marque. Je te remercie en te donnant. C'était vraiment des titres de noblesse qu'on allait donner pour honorer quelqu'un.
Donc, il y a toujours d'ailleurs le château à Blenay.
Ah bah évidemment.
Voilà. Bon, écoute, on est arrivé. On sait tout sur les ducs maintenant, grâce à toi, Joël.
Ah, si seulement. Je pourrais en parler 6 heures, mais bon.
Mais bon, malheureusement, on est arrivé au bout de cette interview. Merci infiniment d'être revenu. Bon, comme je t'avais déjà dit la dernière fois, c'est fort probable que tu doives revenir à un moment donné. Hein.
Ce serait un plaisir. Bon,
mais écoute, vraiment, ce serait un plaisir partagé. Merci d'être venu nous expliquer ce que c'est qu'un duc. Tu es médiateur culturel au château de Chillon. Merci infiniment et à tout bientôt.
À tout bientôt.